Le Corne de Lille, Contes en prose, Impression de jeunesse, Sakatov. Il appartient qu'aux œuvres vraiment belles de donner lieu aux imitations, heureuses ou maladroites. Ce sont autant d'hommages indirects rendus au génie et qui n'ont pas fait défaut aux plus gracieux comme aux plus émouvants des poèmes Paul et Virginie, que Bernardin de Saint-Pierre appelait modestement une pastorale. Pastorale immortelle à coup sûr, où l'exactitude du paysage et des coutumes créoles ne le cède qu'au charme indicible qui s'en exhale. Les quelques lignes qui suivent n'ont aucun rapport, quant au fond, avec l'histoire touchante des deux Mauriciens. La scène se passe cette fois à Bourbon, et l'époque n'est plus la même. Cependant, le voisinage des deux îles, que 35 lieues séparent à peine, amènera entre le poème de Bernardin de récit de la mort romanesque d'un noir célèbre par son adresse, son courage et son originalité, quelques analogies nécessaires de description, sauf les différences du sol, différences souvent essentielles, comme on en peut juger. L'île Bourbon est plus grande et plus élevée que l'île Maurice. Ses cimes extrêmes sont de 17 à 1800 toises au-dessus du niveau de la mer, et les hauteurs environnantes sont encore couvertes de forêts vierges où le pied de l'homme a bien rarement pénétré. L'île est comme un cône immense dont la base est entourée de villes et d'établissements plus ou moins considérables. On en compte à peu près 14, tous baptisés de noms de saints et de saintes, selon la pieuse coutume des premiers colons. Quelques autres parties de la côte et de la montagne portent aussi certaines dénominations étranges aux oreilles européennes, mais qu'elles aiment à la folie. L'étang salé, les trois bassins, le boucan canot, l'îlette au martin, la ravine à malheur, le bassin bleu, la plaine des Cafres, etc. Il est rare de rencontrer entre la montagne et la mer une largeur de plus de 2 lieues, si ce n'est à la savane des Galets, et du côté de la rivière Saint-Jean, l'une sous le vent et l'autre au vent de l'île. Au dire des anciens créoles, la mer se retirait insensiblement et se brisait autrefois contre la montagne elle-même. C'est sur les langues de sable et de terre qu'elle a quitté, qu'ont été bâties les villes et les quartiers. Il n'en est pas de même de Maurice, qui, sauf quelques pics comparativement peu élevés, est basse et aplanie. On n'y trouve point les longues ravines qui fendent Bourbon des forêts à la mer, dans une profondeur effrayante de 1000 pieds, et qui, dans la saison des pluies, roulent avec un bruit d'immenses, d'irrésistibles torrents et des masses de rochers dont le poids est incalculable. La végétation de Bourbon est aussi plus vigoureuse et plus active, l'aspect général plus grandiose et plus sévère. Le volcan, dont l'éruption est continue, se trouve vers le sud, au milieu de mornes désolées que les Noirs appellent le pays brûlé. Vers 1820, un négrier de Madagascar débarqua sa cargaison humaine entre Saint-Paul et Saint-Gilles. Les lots furent faits et distribués sur le sable, puis chacun remonta la montagne avec ses nouveaux esclaves. Parmi ceux qui suivirent leur maître sur les bords de la ravine de Bernica, il y avait un jeune noir qui sera, si le lecteur veut bien le permettre, le héros de cette histoire, pour le moins aussi véridique que les aventures du poète mauricien. Sakatov était d'un naturel si doux et d'un caractère si gai, il s'habitua à parler créole avec tant de facilité que son maître le prit en amitié. Durant 4 années entières, il ne commit aucune faute qui pût lui mériter un châtiment quelconque. Son dévouement et sa conduite exemplaire devinrent proverbiaux à 10 lieues à la ronde. Son maître le fit commandeur, malgré son âge, et les Noirs s'accoutumèrent à le considérer comme un supérieur naturel. Tout allait pour le mieux dans l'habitation, quand un beau jour, Sakatov disparut et ne revint plus. Les recherches plus actives furent inutiles et 2 mois ne s'étaient pas écoulés qu'il était oublié. La famille du blanc dont il était l'esclave se composait d'un fils et d'une fille de 18 et de 16 ans. L'un était dur et cruel, quoique brave, comme la plupart des créoles. L'autre était indolente et froide, avec une peau de neige, des yeux bleus et des cheveux blonds. Le frère passait sa vie à chasser dans la montagne et dans les savanes. La sœur vivait couchée dans sa chambre, inoccupée et paresseuse jusqu'à l'idéal. Quant au père, il fumait de 30 à 40 pipes par jour et buvait du café d'heure en heure. Du reste, il en savait assez sur toute chose pour apprécier convenablement l'arôme de son tabac et celui de sa liqueur favorite. C'était à tout prendre un brave homme, un peu féroce, mais pas trop. La maison qu'ils habitaient sur leur habitation de Bernica était entourée de 2 galeries superposées et fermées de partiennes en rotin peint. Il s'y trouvait quelques chambres à coucher, faites exprès pour les grandes chaleurs de janvier. C'était dans l'une d'elles que reposait ordinairement la jeune créole. Un matin, ses négresses privilégiées, après avoir longtemps attendu le signe accoutumé, inquiète de ce sommeil prolongé, ouvrirent la porte de l'appartement et n'y trouvèrent personne. Leur maîtresse avait disparu à son tour. La chambre était restée dans le même état que la veille et rien n'avait été enlevé des objets de luxe qui la décoraient, si ce n'est tout le linge et la toilette de la jeune fille. Ce ne pouvait être qu'un rapt amoureux. Et quoique le père et le fils ne soupçonnassent qui que ce soit, les aventures de cette sorte étaient trop fréquentes pour négliger les mesures promptes et énergiques. Il était possible que le ravisseur se fût dirigé vers sur Maurice. Ils apprirent en effet qu'un navire était parti de Saint-Paul pour cette destination le jour même de l'enlèvement. Ce navire fut immédiatement suivi, mais il n'avait fait que toucher l'île voisine en continuant sa route pour l'Inde. Le père et le fils revinrent chez eux et attendirent patiemment que la fugitive leur donnât des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Le premier n'en fuma pas moins de pipe et le second n'en tua pas moins de perdrix et de lièvres. Tout marcha comme d'habitude dans la maison. Seulement, il eut une chambre inoccupée. Que le lecteur ne s'étonne pas de cette indifférence et ne m'accuse point d'exagération. Le créole a le corps fort peu expansif et trouve parfaitement ridicule de s'attendrir. Ce n'est pas du stoïcisme, mais bien de l'apathie, et le plus souvent un vide complet sous la mamelle gauche, comme dirait Barbier. Ceci soit dit, sans faire tort à l'exception, qui, comme chacun sait, est une irrécusable preuve de la règle générale. Et ce fut un peu de temps de là qu'on entendit parler de Sakatov à l'habitation. Un noir assura l'avoir rencontré dans les bois. Cette nouvelle fut bientôt confirmée d'une façon éclatante. Une bande de noirs marrons dévasta les habitations situées aux approches de la forêt, et celle du maître de Sakatov ne fut pas épargnée. Une nuit, entre autres, l'appartement de la jeune fille enlevée fut si complètement dévasté qu'il ne resta que les 3 cloisons inamovibles, la persienne de rotin ayant été aussi emportée. Le détachement des hauts de Saint-Paul reçut l'ordre de poursuivre les marrons. Notre jeune créole prit son meilleur fusil de chasse et suivit le détachement involontaire. Ce que voyant, son père alluma une pipe et but quelques tasses de café en guise d'adieu. Rien n'est beau comme le lever du jour du haut des monts de Bernica. on y découvre la plus riche moitié de la partie sous le vent, et la mer à 30 lieues au large. Sur la droite, au pied de la montagne Marquet, la savane des Galets s'étend sur une superficie de 3 à 4 lieues, hérissée de grandes herbes jaunes que sillonne d'une longue raie noire le torrent qui lui donne son nom. Quand les clartés avant-courrières du soleil luisent derrière la montagne de Saint-Denis, un liseré d'or en fusion couronne les dentelures des pics et se détache vivement sur le bleu sombre de leur masse lointaine. Puis il se forme tout à coup, à l'extrémité de la savane, un imperceptible point lumineux qui va s'agrandissant peu à peu, se développe plus rapidement, envahit la savane tout entière, et semblable à une marée flamboyante, franchit d'un bond la rivière de Saint-Paul, resplendit sur les toits peints de la ville, et ruisselle bientôt sur toute l'île, au moment où le soleil s'élance glorieusement au-delà des cimes les plus élevées dans l'azur foncé du ciel. C'est un spectacle sublime qu'il m'a été donné d'admirer bien souvent, et c'est aussi celui qui se déroula sous les yeux du détachement quand il fit sa première halte à 6 heures du matin sur le piton rouge du Bernica à 1203 environ du niveau de la mer. Mais hélas, les créoles prennent volontiers pour devise le « Nil admirari » d'Horace, ne s'étonner de rien. Que leur forme les magnificents de la nature, que leur importe l'éclat de leur nuit sans pareil. Ces choses ne trouvent guère de débouchés sur les places commerciales de l'Europe. Un rayon de soleil ne pèse pas une balle de sucre, et les quatre murs d'un entrepôt réjouissent autrement leurs regards que les plus larges horizons. Pauvre nature, admirable de force et de puissance, qu'importe à tes aveugles enfants la merveilleuse beauté? On ne la débite ni en détail, ni en gros, tu ne sers à rien. Bah, alimente de rêves creux le cerveau débile des rimeurs et des artistes. Le créole est un homme grave avant l'âge, qui ne se laisse aller qu'aux profits nets et clairs, aux chiffres irréfutables, au son harmonieux du métal monnayé. Après cela, tout est vain. Amour, amitié, désir de l'inconnu, intelligence et savoir, mais tout cela ne vaut pas un grain de café. Et ceci est encore vrai, ô lecteur, très vrai et très déplorable. Les plus froids et les plus apathiques des hommes ont été placés sous le plus splendide et le plus vaste ciel du monde, au sein de l'océan infini, afin qu'il fût bien constaté que l'homme de ce temps-ci est l'être immoral par excellence. Est-il en effet une immoralité plus flagrante que l'indifférence et le mépris de la beauté? Est-il quelque chose de plus odieux que la sécheresse du cœur et l'impuissance de l'esprit en face de la nature éternelle? J'ai toujours pensé, pour mon propre compte, que l'homme ainsi fait n'était qu'une monstrueuse et haïssable créature. Mais qui donc en livrera le monde? Le détachement pénétra dans les bois. Eux aussi sont pleins d'un charme austère. La forêt de Bernica, alors comme aujourd'hui, était dans toute l'abondance de sa féconde virginité. Gonflée de chants d'oiseaux et des mélodies de la brise, dorée par-ci par-là des rayons multipliés qui filtraient au travers des feuilles, enlacée de lianes brillantes aux mille fleurs incessamment variées de forme et de couleur, et qui se berçait capricieusement des cimes hardies, des nattes et des bois roses aux tubes arrondis des papayers lustres, on eût dit le jardin d'Arménie au premier jour du monde, la retraite embaumée d'Ève et des anges amis qui venaient l'y visiter. Mille bruits divers, mille soupirs, mille rires se croisaient à l'infini sous les vastes ombres des arbres, et toutes ces harmonies s'unissaient et se confondaient parfois, de telle sorte que la forêt semblait s'en former une voix magnifique et puissante. Le détachement passa silencieux, et le pas des chasseurs se perdit bientôt dans les profondeurs solitaires du bois. À une lieue environ, au milieu d'un inextricable réseau de lianes et d'arbres, la ravine de Bernica, gonflée par les pluies, roulait sourdement à travers son lit de roches éparses. Deux parois perpendiculaires de 400 à 500 pieds s'élevaient de deux côtés de la ravine. Ces parois, tapissées en quelques parties de petits arbustes grimpants et d'herbes sauvages, étaient généralement nues et laissaient le soleil chauffer outre mesure la pierre déjà calcinée par les anciennes laves dont l'île a gardé l'ineffaçable empreinte. Si le lecteur veut s'arrêter un moment sur la rive gauche de la ravine, il apercevra, au milieu de la rare végétation dont je viens de parler, une ouverture d'une médiocre grandeur à peu près à la moitié du rempart. Avec un peu plus d'attention, ses regards découvriront une grosse liane noueuse qui descend le long du rocher jusqu'à cette ouverture que ses racines solides ont fixée plus haut dans les crevasses de la guerre pierre autour du tronc des arbres. Il y avait là une grande caverne divisée en deux parties naturelles, dont la première était beaucoup plus vaste que la seconde et à demi éclairée par quelques fentes de la voûte. L'ouverture était à peine franchie que la courbe du roc s'élançait à une hauteur triple de la largeur de cet asile, alors inconnu, des noirs marrons. Trois d'entre eux étaient assis dans un coin et fumaient silencieusement. Au hasard, pêle-mêle, accrochés ou roulant à terre, des fusils, des couteaux à canne, des barils de lard salé, des sacs de riz, de sucre et de café, des vêtements de toutes sortes, des marmites et des casseroles encombraient cette antichambre, ou plutôt ce corps de garde de la caverne. En tournant un peu sur la droite et en soulevant une tenture de soie jaune de l'Inde, on pénétrait dans l'autre partie. Là brûlaient 5 ou 6 grandes torches de bois d'olive, dont les reflets rouges jouaient bizarrement sur les étoffes de couleur dont on avait tendu les parois du rocher. Chaises, fauteuils et divans meublaient cet étrange salon. Et, nonchalamment courbé au fond, sur une noire riche causeuse bleue, vêtue de mousseline, calme et immobile, quoique un peu pâle, dormait ou feignait de dormir une jeune fille blanche. À quelques pas d'elle, appuyée sur un long bâton ferré, Sakatov la contemplait avec sa physionomie insouciante et douce, encombrant son beau torse nu. La jeune fille fit un mouvement et ouvrit de grands yeux bleus. Sakatov s'approcha sans bruit et, se mettant à genoux devant elle, lui dit avec un accent de tendresse craintive « Pardon, maîtresse !» Elle ne répondit pas et lui jeta un regard froid et méprisant. « Pardon, je vous aimais tant, je ne pouvais plus vivre dans les bois. » Si je ne vous avais pas trouvé à la grande case, je serais plutôt revenu à la chaîne que de courir le risque de ne plus vous voir. Pardon. Mais il fallait revenir, en effet, répondit la jeune fille. N'es-tu pas le mieux traité de tous nos noirs? Pourquoi es-tu parti marron? Oh, dit Sakatov en riant naïvement, c'est que je voulais être un peu libre aussi, maîtresse. Et puis j'avais le dessein de vous emporter là-bas. Et quand Sakatov a un désir, il y en a 200 bons bras qui obéissent. Je vous aime, maîtresse, ne m'aimez-vous jamais? Mais va, laisse-moi, tu es fou, misérable esclave. Allez, sors d'ici. Non, mais non, écoute. Ramène-moi à l'habitation, je ne dirai rien et demanderai ta grâce. Mais Jacques-Attoff n'a besoin de la grâce de personne, maîtresse. C'est lui qui fait grâce maintenant. Alors, soyez bonne, maîtresse, dit-il en voulant entourer de ses bras le corps de la jeune fille. Mais à ce geste, celle-ci poussa un cri de dégoût invincible et se renversa si violemment en arrière que son front heurta le rocher. Elle pâlit et tomba sans connaissance. À ce cri perçant, plusieurs négresses entrèrent à la hâte et la ramenèrent à la vie. Puis elles sortirent. « N'ayez plus peur de moi, » dit Jacques-Attoff à sa maîtresse. « Demain, soir, vous serez à l'habitation. »« C'est bien, » murmura-t-elle froidement. « Je tiendrai ma parole et j'aurai ta grâce. » Jacques-Attoff sourit tristement et sortit. À peine avait-il franchi les trois sentiers qui séparaient les deux portes de la caverne, que les jambes nues d'un noir parurent à l'ouverture de celle-ci et furent suivies du corps tout entier. « Commandeur !» s'écria-t-il aussitôt avec terreur. « Les blancs ! Les blancs !» Alors, de tous les coins sombres de la caverne, sortit, comme par enchantement, une centaine de noirs qui s'armèrent à la hâte. « T'ont-il vu ? » demanda Jacques-Attoff au nouveau venu. « Non, non, commandeur, mais ils viennent par ici. »« Alors, silence, ils ne trouveront rien. » On entendit en effet bientôt des pas nombreux au-dessus de la caverne, accompagnés de jurements et de malédictions. Puis le bruit décrut et mourut entièrement. « Pauvre blanc !» dit Jacques-Attoff avec un mépris inexprimable. Les Noirs poussèrent de grands éclats de rire à cette exclamation de leur chef. « Demain, » continua celui-ci, « demain soir, entendez-vous, mademoiselle Maria, ma maîtresse, avec ses meubles et ses habits, sera de retour à son habitation. » Les Noirs firent des signes muets d'assentiment, et Jacques-Attoff, s'approchant de l'ouverture de la caverne, prit son bâton entre ses dents et disparut en gravissant le tronc noueux de la liane. Le détachement descendait la montagne une heure après cette scène. Le frère de Maria s'était attardé de quelques pas pour abattre un beau pied jaune qui se baissait pour ramasser, quand il se sentit renversé sur le ventre par une force bien supérieure à la sienne, il entendit une voix bien connue lui dire en créole « « Bonjour, maître. Mademoiselle Maria se porte bien, et vous reverrez bientôt. »« Ne vous étonnez pas, maître, c'est moi, Jacques-Attoff. Mes compliments au vieux blanc. »« Adieu, maître. » Le jeune créole, rendu à la liberté de ses mouvements, se releva vivement et plein de rage, mais le noir était déjà à 30 pas. Et quand il voulut le poursuivre, l'autre disparut dans le bois. Le lendemain du jour fixé pour le retour de Maria, comme son père et son frère passaient sous sa fenêtre en fumant leur pipe, ils l'y aperçurent tout à coup, et le premier s'écria « Comment, c'est toi, Maria, et d'où viens-tu ? » « Plus bas, » répondit la jeune fille en se penchant en dehors de la fenêtre. J'ai été emmené dans les bois par Jacques-Attoff, mais je lui ai promis sa grâce, qu'il faut lui accorder, de peur qu'il ne parle. Oh, qu'il revienne ou que je le rencontre, dit le jeune homme, il ne partira jamais. Il ne comprit pas, en effet, ce qu'il avait fallu à Jacques-Attoff de force d'âme et de générosité pour se dessaisir d'une femme que nul au monde ne pouvait lui ravir. Il ne se souvint que du double outrage de son esclave et jura de lui en infliger le châtiment de ses propres mains. Oh, il n'attendit pas longtemps. Un matin, qu'il chassait sur les limites du bois, et au moment où il mettait en joue, Jacques-Attoff se présenta devant lui. Il était nu, comme toujours, sans armes et les mains croisées derrière le dos. « Bonjour, maître, » dit-il, « Mademoiselle Maria se porte-t-elle bien ? Oh, chien ! S'écria le Carole, et il lâcha le coup de fusil. La balle effleura l'épaule du noir qui bondit en avant, et saisissant le jeune homme par le milieu du corps, l'éleva au-dessus de sa tête comme pour le briser sur le sol. Mais ce moment de colère ne dura pas. Il le déposa sur les pieds et lui dit avec calme « Recommencez, maître. Sakatov est malheureux maintenant. Il n'aime plus les bois et veut aller au grand pays du bon Dieu, où les blancs et les noirs sont frères. » Le créole ramassa froidement son arme, la chargea de même et le tua à bout portant. Ainsi mourut Sakatov, le célèbre marron. Sa jeune maîtresse se maria peu de temps après à Saint-Paul. Et l'on ne dit pas que son premier-né ait eu la peau moins blanche qu'elle.